Bon, très bien. Alors, on va commencer. On est dans le cours de survol de la Bible, la portion de l'Ancien Testament. Nous sommes ce matin, on entre en fait dans la section des livres prophétiques. Alors, on va parler du livre d'Ésaïe ensemble ce matin. Si jamais vous avez pas, vous désirez recevoir les notes par courriel le vendredi, simplement peut-être inscrire votre adresse courriel en dessous de votre nom sur la feuille de présence. Et puis, on verra ce que ces noms-là soient ajoutés à la liste d'envoi. Vous pouvez aussi écrire au secrétariat de l'Église. Je m'excuse, j'ai un rhume. On est rendu dans les bronches. On va se courber ensemble dans un mot de prière. Eh bien, Père éternel, je veux te remercier pour ta sainte parole, Seigneur. Je veux te rendre grâce, Père, pour le livre d'Ésaïe qui a su m'édifier, me faire grandir dans ma foi, me pousser vers l'adoration, Seigneur, devant la beauté de ta personne, de ton amour, de ta grâce, Seigneur, devant l'image de ta sainteté qui en est dépeinte, Seigneur, c'est fantastique. Je te bénis, Père, pour ce livre. Je te demande de venir nous éclairer ce matin. Aide-moi comme enseignant à être le plus clair possible, Seigneur, et que ce livre qui apparaît inaccessible à plusieurs puisse l'être un peu plus à la fin du cours ce matin et que chacun puisse être édifié. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Alors, on termine... On terminait la semaine dernière la portion des livres de sagesse ou les livres poétiques. On les désigne sous ces deux appellations-là régulièrement. Et on entre dans la dernière partie de l'Ancien Testament, qui est la partie des livres prophétiques. Donc, à partir du livre d'Ésaïe jusqu'à la fin de l'Ancien Testament, on va être dans les livres prophétiques. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait tout de suite se lancer puis me dire qu'est-ce que c'est un livre prophétique? Je sais que c'est une évidence pour presque tout le monde. Mais ça sera au bénéfice de ceux pour qui c'est pas clair. Alors, qu'est-ce qu'un livre prophétique? Là, comme je sais qu'à peu près tout le monde a la réponse, je vais demander à Paul, s'il te plaît. Paul, est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi un livre prophétique, s'il te plaît?
Pour moi, un livre prophétique, c'est un livre qui annonce
des choses qui vont se passer dans l'avenir. OK, parfait. Excellent. Alors, un livre qui annonce des choses qui sont à venir. Définitivement, je dirais que c'est la particularité nouvelle de ces livres-là. Un autre élément que je cherche aussi, qu'est-ce qu'il y a de particulier avec les livres prophétiques par opposition en général aux autres livres qu'on a vus jusqu'à présent dans l'Ancien Testament? Une autre particularité des livres prophétiques en contraste avec le reste de l'Ancien Testament. Vous avez une idée? Ça va avec le rôle du prophète. Lorsqu'on arrive dans cette portion-là de l'Ancien Testament, beaucoup plus souvent, on va trouver des situations où Dieu dicte carrément. Le prophète parle carrément au nom de l'Éternel par des paroles qu'il a pu entendre ou quoi que ce soit dit au peuple. On trouve ça avec Moïse, on trouve ça ailleurs dans l'Ancien Testament, mais beaucoup plus souvent lorsqu'on arrive dans la section des livres prophétiques. Alors, en poursuivant sur la même lancée, qui pourrait me dire... C'est quoi un prophète? Qu'est-ce que c'est un prophète? Isaac, qu'est-ce qu'un prophète? OK, je vais répéter ce que tu as dit, puis je vais te demander d'ajouter une nuance. Alors, Isaac nous dit que c'est un homme qui reçoit une révélation de Dieu dans son esprit, dans sa pensée, puis qui la transmet au peuple. Maintenant, c'est vrai... Mais est-ce que ce serait pas vrai aussi de dire que si, par exemple, le livre de la Genèse a été inspiré par l'Esprit de Dieu, on pense qu'il est inspiré, il a aussi été donné par Dieu. Alors, ce serait quoi la différence entre le prophète et, disons, l'ensemble des livres qui sont inspirés de Dieu? Est-ce que tu aurais une idée? Oui, alors il annonce l'avenir. OK, pour aider le peuple à revenir à Dieu ou à marcher avec Dieu. C'est bon, c'est bon. Donc, c'est ça. On pense que on croit que toutes les Écritures sont inspirées de Dieu, de Genèse à l'Apocalypse. Dans le cas du prophète, plus souvent, il va avoir une révélation directe. Et donc, ce n'est pas simplement que Dieu va le diriger dans ce que lui expérimente comme son inspiration personnelle, puis Dieu, l'Esprit est en train de diriger à travers ça, mais tout simplement, Dieu lui dit ce qu'il a à dire, d'accord? Une manière aussi de présenter les livres prophétiques en contraste avec les autres livres de l'Ancien Testament, si on a dit, par exemple, que les livres de sagesse, mais je pense particulièrement aux livres poétiques comme les psaumes, lorsqu'on est arrivé, comme c'est mentionné dans l'introduction du document, lorsqu'on est arrivé dans la portion des proverbes, des psaumes, du Cantique des Cantiques, l'Ecclésiaste, on arrive beaucoup plus dans une partie du livre de l'Ancien Testament où on entre dans une relation personnelle. On assiste à une relation plus personnelle avec Dieu. Il y a beaucoup de psaumes qui sont pour l'ensemble du peuple, mais en même temps, ça parle comme de l'élan d'un cœur vers Dieu. Et c'est comme ça qu'on l'entend lorsqu'on le lit. Dans le reste de l'Ancien Testament, parfois, on va assister aux prières de Moïse. Moïse exprime quelque chose à Dieu, puis là, on est là comme dans la solitude, dans l'intimité de la rencontre entre Moïse et Dieu. Mais plus généralement, c'est des récits historiques, on a des informations, tout ça, et ça concerne tout le peuple. Lorsqu'on est arrivé dans le livre des psaumes, par exemple, on est arrivé dans une relation plus personnelle où on a le privilège de voir ce qui se passe dans le cœur d'un adorateur, dans la relation, comment est-ce que l'homme vit sa relation avec Dieu, d'accord? Lorsqu'on arrive dans les livres prophétiques, je dis souvent, les livres prophétiques nous permettent d'entendre le cœur de Dieu dans sa relation avec les hommes, d'accord? Alors, si dans les psaumes, j'ai le cœur d'un adorateur dans sa relation avec Dieu, lorsque j'arrive dans les livres prophétiques, c'est comme si j'entrais un peu dans l'esprit de Dieu, parce que c'est constamment lui qui est en train de parler, et là, on voit son cœur, on voit sa réponse. C'est ce qui fait que, par exemple, les livres prophétiques, c'est un des endroits par excellence dans toutes les Écritures pour entendre et voir la passion de Dieu, l'amour passionné que Dieu a pour son peuple. Parce que c'est constamment Dieu qui est en train d'exprimer sa pensée, son cœur. Et donc, il y a des passages qui sont vraiment touchants, vraiment même troublants, de voir à quel point Dieu aime son peuple, Dieu est passionné de son peuple. On trouve ça dans les livres prophétiques. Alors, si vous voulez les placer un petit peu dans votre esprit, quand vous pensez aux psaumes, pensez au cœur de l'adorateur. Quand vous pensez aux livres prophétiques, pensez au cœur de Dieu. Et toujours dans cette relation-là entre l'adorateur ou le peuple de Dieu et l'Éternel. Donc ça, c'est lorsqu'on arrive dans la section des livres prophétiques. Comme j'ai mentionné, tous les livres à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'Ancien Testament font partie de cette section des livres prophétiques. On l'a mentionné, je vais juste le répéter pour m'assurer que c'est bien clair. Le rôle du prophète, c'est d'exprimer le cœur de Dieu pour ramener le peuple de Dieu à marcher avec l'Éternel. D'accord? Alors, le rôle du prophète, c'est vraiment d'aller vers le peuple de Dieu puis de représenter Dieu par ses paroles, mais des fois aussi par sa vie. Alors, le prophète va parfois être appelé à faire des choix de vie très drastiques pour être une illustration vivante. D'accord? Pensez aux lamentations de Jérémie. Jérémie va se buter à un peuple rebelle pendant pratiquement tout son ministère. Donc, ça veut dire que pour cet homme-là, il allait vivre un ministère infructueux. Vous me suivez? Il allait vivre un ministère infructueux parce que le peuple de Dieu est rebelle, puis Jérémie, ben, c'est le messager de Dieu. Fait que le messager, c'est celui qui reçoit les claques, hein? C'est celui qui apporte les mauvaises nouvelles, c'est lui qui reçoit les claques. Jérémie, c'est ce qu'il va faire. Alors, non seulement il représente le cœur de Dieu par son message, mais par sa propre vie. Et donc, on va se retrouver avec des vies, littéralement, qui sont entièrement sacrifiées à représenter le cœur de Dieu auprès du peuple. Dans ce sens-là, dans cette mesure-là, si notre mandat à nous est d'aller faire de toutes les nations des disciples, et nous savons pertinemment qu'un grand nombre de gens vont résister au message de l'Évangile, et notre vie aussi doit être sacrifiée à cela. Le mandat qui nous est donné, c'est super clair, allez faites de toutes les nations des disciples. Selon Jésus, combien de personnes vont se convertir? Une minorité, le Seigneur nous le dit. Et donc, ma vie, votre vie comme disciple de Christ, notre mandat, c'est d'aller faire de toutes les nations des disciples. Nous savons déjà que le message que nous avons annoncé est impopulaire et pour beaucoup de gens va demeurer impopulaire. Dans ce sens-là, nous avons un travail prophétique à faire. D'accord? Je ne parle pas d'annoncer l'avenir, quoique ce n'est pas par révélation, il nous est déjà donné, on peut leur annoncer leur avenir, mais dans le sens de représenter le cœur de Dieu. Alors, lorsque, comme chrétien, je m'en vais annoncer l'Évangile, et je me décourage parce que les gens sont fermés à l'Évangile, et là, je me retire, je n'ai pas bien saisi mon rôle. D'accord? Le prophète dans l'Ancien Testament recevait la révélation de Dieu pour connaître le cœur de Dieu. Le chrétien dans le Nouveau Testament a reçu le Saint-Esprit de Dieu, qu'il conduit dans toute la connaissance des Écritures, et nous sommes là pour représenter le cœur de Dieu auprès des hommes. De me buter face à des gens qui vont refuser l'Évangile, c'est pas quelque chose qui devrait affecter ma compréhension de mon ministère. C'est mon ministère d'annoncer l'Évangile. Je parle pas du pasteur, là, d'accord? Je parle de tous les croyants. Et donc, dans ce sens-là, c'est le rôle que nous devons jouer. Lorsque moi, comme pasteur, ou lorsque vous, comme parent, ou lorsque vous allez, puis vous allez parler avec votre enfant, puis vous voulez lui partager ce que Dieu veut pour sa vie, vous êtes en train d'entrer dans ce rôle-là de prophète. Le prophète qui va exhorter puis dire, est-ce que tu vois pas que Dieu t'aime et qu'il veut te bénir? Tu es en train de résister à ton bienfaiteur. Et dans ce sens-là, vous êtes en train d'entrer dans ce rôle prophétique-là, où vous allez exhorter les gens à revenir à l'Éternel. D'accord? Alors, c'est un mandat pour chacun d'entre nous. C'est un énorme privilège. C'est une grâce. C'est un petit peu comme si vous aviez... vous savez, lorsqu'on était au secondaire, puis on avait des amis, tout ça, plus tard même, il y a des fois, moi je le vis personnellement lorsque je vais aider des couples, mais vous avez deux amis, puis deux de vos amis sont en conflit, puis dans le fond, vous le savez qu'ils s'aiment toutes les deux, mais il y a de l'orgueil là-dedans, puis un paquet d'affaires là-dedans, puis j'ase avec ma fille de ce temps-ci, fait que ça me rebaigne dans toute cette époque-là, mais vous savez qu'ils sont en conflit dans le fond par orgueil ou toutes sortes de mauvaise compréhension. Puis là, tu t'en vas comme ami, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais tu t'en vas auprès d'un pour plaider la cause, tu sais, puis dire, non, mais écoute, arrête, vous êtes les meilleurs amis du monde, revenez ensemble, tu sais. C'est un privilège de pouvoir faire ça parce que je m'en vais représenter le cœur d'une autre personne. Je m'en vais exprimer l'affection d'une autre personne pour amener une réconciliation. C'est le rôle du prophète. C'est le rôle des disciples de Christ. D'accord? C'est ça notre rôle. Nous avons le ministère de la réconciliation. Et c'est ça qu'on annonce, un message de réconciliation. Moi, je le vis envers l'Église, comme pasteur. Je le vis auprès de mon épouse, si je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa communion avec le Seigneur. Je le vis auprès de mes enfants, je le vis auprès de mes voisins. D'accord? Et donc, chacun d'entre nous, dans une bonne mesure, on peut s'inspirer de ce rôle-là. Et regardez comment est-ce qu'ils portent ça. Comment est-ce qu'ils vivent ça, cette vie qui est sacrifiée à représenter Dieu auprès des hommes. Et ce rôle-là va se terminer lorsqu'on va être dans la présence de Dieu. Quand on va être dans sa présence, on n'aura plus besoin du prophète qui va exhorter le peuple à venir vers l'Éternel. On va juste avoir des chantres qui vont dire « Venez louer l'Éternel », puis les cœurs vont être remplis de joie d'aller louer l'Éternel. Ça va être une autre époque complètement. Alors, allons-y avec Ésaïe lui-même, le livre lui-même. Le thème du livre d'Ésaïe, je trouve qu'il est bien résumé comme ça. Le salut est donné par la grâce, par la puissance du Dieu rédempteur, et non par les efforts humains ou les œuvres de la chair. Le thème du Dieu sauveur est omniprésent à travers le livre d'Ésaïe. D'accord? On pourrait dire aussi qu'il y a le thème de la sainteté de Dieu, du Dieu juge, qui est très présent. Mais justement, ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas que le Dieu saint qui va juger les hommes qu'on trouve dans le livre d'Ésaïe. On trouve le Dieu sauveur qui vient racheter son peuple, éventuellement même des gens de toutes les nations de la terre. C'est dans le livre d'Ésaïe qu'on trouve beaucoup de ces prophéties-là. Mais une des choses qui ressort très clairement, qui revient à plusieurs reprises, c'est que ce salut-là ne s'effectue pas en vertu de la valeur du peuple, en vertu des bonnes œuvres du peuple. Ce salut-là va s'accomplir en vertu de l'œuvre de Dieu, de la grâce de Dieu, que Dieu va être l'initiateur de ce salut-là. Alors, c'est le thème de tout le livre. On situe le livre environ en 700 avant Jésus-Christ, parce qu'il y a quand même pas mal d'informations historiques sur l'époque, tout ça, pas mal d'informations dans le livre, c'est assez facile à situer avec pas mal de certitude. L'auteur lui-même est clairement identifié, il est cité à de nombreuses reprises dans le Nouveau Testament. Simplement le terme « le livre d'Ésaïe » est cité aussi à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Donc, Ce n'est pas difficile dans le cas de ce livre-là, comparativement à d'autres livres, d'identifier vraiment qui est l'auteur. Je vous donne la structure, d'accord? Je vais lire juste les points 1 à 6, mais encore une fois, un petit peu comme dans le Cantique des Cantiques, c'est beaucoup d'informations pour essayer d'en retenir une structure. Essayez simplement de retenir les 6 points principaux. Alors, chapitre 1 à 6, jugement et promesses pour le peuple de Dieu. Le livre commence avec des annonces de jugement. Le prophète s'en vient dire que la relation est brisée, c'est tout ce qui ne va pas. D'accord? Jugement sur la maison d'Israël, tout ça. Ensuite de ça, 2, perspective du royaume présent et futur. Alors là, on commence à avoir des prophéties sur ce qui s'en vient, sur les jugements qui vont tomber. 3, jugement sur toutes les nations et restauration d'Israël. Maintenant, Dieu dit, une fois que j'ai jugé Israël, je vais vous dire, voici comment est-ce que je vois les nations de la terre. C'est un livre qui est précieux parce qu'il nous aide justement à voir comment Dieu voit le reste de la terre. Une des difficultés qu'on a souvent dans l'Ancien Testament, c'est que pour nous et nos contemporains, on se dit, ouais, mais prenez une map monde, puis regardez la grosseur d'Israël, puis c'est quoi, là? Pendant des milliers d'années, il y avait juste un petit pays de rien du tout qui comptait aux yeux de Dieu, puis tout se passait là. Mais non, avec le livre d'Ésaïe, on a une idée de comment est-ce que Dieu voit aussi le reste de la terre et la méchanceté des hommes et la rébellion des hommes. 4, jugement sur les incroyants d'Israël. Alors, Dieu va s'adresser plus précisément à l'attitude des gens de son peuple, ceux qui se disent d'Israël, mais qui ne marchent pas comme des fils d'Abraham. 5, histoire d'Ézéchias, roi de Juda. On s'en va dans une histoire beaucoup plus précise, et là, on a des informations un peu plus historiques dans ce cas-là. Et 6, promesse de délivrance et de consolation. C'est à partir des chapitres 40 et suivants qu'on voit davantage apparaître le serviteur souffrant, le serviteur qui s'en vient sauver. Pendant une bonne partie du livre, le serviteur, on peut l'associer beaucoup avec tout le peuple d'Israël qui est son serviteur. Mais tranquillement, tu vois apparaître un personnage, tu te dis, OK, là, on ne parle plus juste du peuple, on parle d'une personne. Il apparaît de manière plus claire à partir des chapitres 40 et suivants. On va le voir ensemble tantôt. Contexte historique. Alors là, il faut replacer ça un petit peu. On est dans le contexte des prophètes, des royaumes divisés, tout ça. Royaume du Nord, royaume du Sud. Il faut placer ces choses-là pour comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer à cette époque-là. On tourne la page à la page 3. Simplement pour donner le contexte politique. Alors, le ministère des prophètes commence après la division du royaume, d'accord? Le moment fort d'Israël, où Israël est uni et puissant, c'est sous le règne de David et de Salomon. Mais rapidement, à la mort de Salomon, le royaume va se diviser. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir des tensions entre le royaume du Nord, le royaume du Sud, ce qu'on appelle Israël et Juda, d'accord? Il va y avoir des tensions. Le royaume du Nord va s'éloigner de l'Éternel très, très rapidement. On ne trouve aucun roi qui nous est rapporté dans le royaume du Nord qui a marché avec l'Éternel, d'accord? Dans le royaume du Sud, il y en a quelques-uns, plusieurs même, qui, dans une certaine mesure, certains sont allés plus loin dans les réformes pour revenir à l'Éternel, d'autres moins loin. Mais dans le royaume du Nord, on n'en trouve aucun qui a marché avec l'Éternel. Alors, il va y avoir des tensions très, très rapidement. Tout ça, ça se passe là, autour de 930 avant Jésus-Christ. D'accord? Donc, c'est juste pour vous dire ce qui précède la venue d'Ésaïe et son ministère. Alors, c'est autour, je vais vous lire le paragraphe ici, là, puis après ça, je le commenterai. C'est autour de 900 avant Jésus-Christ que l'Assyrie émerge comme la nouvelle puissance mondiale. Vers l'an 850, là, pour ceux qui ne sont pas familiers, on va à rebours, d'accord? De 900 à 0. Alors, vers l'an 850, à la bataille de Karkar, les Assyriens, aidés du roi Akab d'Israël, royaume du Nord, affrontent la Syrie pour s'en emparer. Cette bataille ne fut pas décisive et pendant environ un siècle, prise avec des problèmes politiques internes, la Syrie devient moins hostile envers les nations environnantes. Vers l'an 745, donc un siècle plus tard, un nouveau roi, Tilgath-Pilsener III, qui est mentionné sous le nom de Pul dans 2 Rois 5-19, reconnu comme un guerrier, prend la tête de la Syrie. Il assujettit le roi de Syrie et le roi d'Israël. Alors, on a une première conquête. Le royaume du Nord va être assujetti au royaume d'Assyrie, au peuple assyrien. les contraignant à lui payer une taxe. Son fils, qui lui succède en 727 et qui règne pendant 5 ans, poursuit les entreprises de son père. En 722, Sargon II, qui servait comme général de l'armée d'Assyrie, usurpe le trône et commence une nouvelle dynastie en Assyrie. C'est lui qui conduit Israël en captivité, première déportation, d'accord? Alors, c'est lui qui conduit Israël en captivité et qui contribue à la destruction du royaume du Nord. Israël, le royaume du Nord, c'est la même chose. Plus tard, aux alentours de 704, Sennachérib, le nouveau roi d'Assyrie, voulant élargir le pouvoir de son empire, vient menacer Ézéchias. Je vous dis qu'il est fait mention de lui dans Ésaïe. Maintenant, à travers son prophète, Dieu va dire à Ézéchias, « Crains pas, le royaume ne va pas être défait sous ton règne à toi. » Maintenant, ça va se passer suite au règne de son fils. Manassé, son fils, va succéder à Ézéchias. Alors, pendant le règne de Manassé, fils d'Ézéchias, la Syrie est défaite par le roi de Babylone en 612 avant Jésus-Christ. Contrairement à son père, Manassé ne marche pas avec l'Éternel, et l'Éternel prédit par la bouche d'Ésaïe que Juda, le royaume du sud, sera aussi emmené en captivité, cette fois à Babylone. Cependant, l'Éternel annonce aussi que son peuple sera restauré par la main du roi qui détruira Babylone. C'est dans cette période-là qu'Ésaïe exerce son ministère, d'accord? Tout va mal, puis ça va de mal en pire. Littéralement, c'est ça qui se passe. Il va voir plusieurs rois régner, tant dans le royaume du Nord que dans le royaume du Sud. Et vraiment, c'est une période où Israël s'est éloigné de Dieu. Très rapidement, lorsque la division des deux royaumes, après la mort de Salomon, le royaume du Nord va commencer à se vouer à des cultes païens. D'accord? Ils vont commencer à faire des alliances avec d'autres gens autour et ils vont commencer à se donner à des cultes païens très, très rapidement. Et donc, Dieu va les menacer très rapidement de déportation. Là, je vous ramène beaucoup plus tôt dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que Dieu avait promis dans son alliance si Israël était infidèle? Quelqu'un qui veut me dire ça? Rappelez-vous dans Deutéronome, l'alliance, tout ça. Quelqu'un qui veut s'essayer avant que je demande à Stéphane de me donner la réponse? David, qu'est-ce que Dieu avait annoncé dans son alliance? Quelle clause il y avait dans l'alliance si Israël n'était pas fidèle avec l'Éternel? Dans Deutéronome, avec Moïse, tout ça. OK, et comment est-ce qu'il allait les détruire? Comment est-ce qu'il allait les châtier? Exactement. Alors, Dieu avait annoncé dans son alliance, quand il a traité alliance avec Israël, il a dit, vous n'étiez pas un peuple, vous étiez des esclaves en Égypte. Je suis allé vous sortir de l'esclavage. Je vous offre maintenant de traiter alliance avec moi. D'accord? Puis il leur a dit au mont Sinaï, quels sont les termes de l'alliance? Il leur dit, et c'est un mariage, d'accord? Il dit, Israël, je veux t'épouser. Maintenant, si tu veux me marier, tu vas être fidèle. Si tu n'es pas fidèle, moi, je vais te châtier, c'est ça qui va se passer. D'accord? Et donc, il leur avait dit, si vous êtes infidèle, si vous êtes fidèle, je vais vous bénir. Si vous êtes infidèle à l'alliance qu'on traite ensemble, je vais vous livrer. Je vais vous livrer à vous-même, je vais vous livrer aux nations environnantes. Il leur avait dit, lorsque vous pleurerez, lorsque vous verrez votre bêtise, vous pleurez, vous crierez, je vais venir à votre secours parce que je suis un mari fidèle. Je vais venir à votre secours, je vais vous restaurer. D'accord? Alors, ça, c'était annoncé. Quand on arrive dans les livres comme Ésaïe, tout ça, puis on voit tout ce qui se passe, si on ne connaît pas l'ensemble de l'enseignement biblique, on lit tout ça, puis on dit, mais où est-ce qu'il est Dieu? Ben Dieu est derrière l'épée de la nation qui est en train de te frapper. C'est ça qui est en train de se passer. Où est-ce qu'il est? Il est derrière le châtiment. Tout ce que Dieu a fait, c'est qu'il a enlevé sa protection. Et lorsqu'on regarde la géopolitique de l'époque, si ce pays-là avait subsisté tout seul, c'est juste par la grâce de Dieu qu'il l'aurait fait, d'accord? Parce que les nations qui soulèvent autour, après Salomon, là, deviennent des royaumes extrêmement puissants. Israël est simplement un corridor de passage pour les transactions commerciales, d'accord? Comme territoire, là, si vous placez la géographie, là, Israël, c'est un corridor de passage, c'est ça, d'accord? Pour aller vers le sud, puis transiger avec le nord. Et donc, si Dieu les garde, comme il a gardé Ézéchias, par exemple, c'est simplement parce qu'Ézéchias s'est tourné vers l'Éternel, puis Dieu a permis qu'il y ait des guerres intestines, puis des guerres sur d'autres fronts pour ce royaume-là, pour qu'il reparte vers le nord. Il était obligé de repartir, puis laisser Israël en paix. Nous, on croit dans la souveraineté de Dieu, puis c'est ce qui nous est annoncé dans les Écritures. Comme les délivrances à venir sont aussi annoncées à travers le roi Cyrus, tout ça, et c'est ce qui se produit. Mais ce que je veux souligner avec ça, c'est que c'est une période extrêmement difficile, c'est une période de souffrance où le peuple d'Israël souffre et est livré à des mains hostiles. Ils sont amenés en captivité, déportation. Est-ce que Dieu est absent? Non, Dieu est en train d'honorer son alliance. C'est terrible là, ce que je dis là, d'accord, mais il faut que ça rentre dans nos cœurs, il faut qu'on comprenne ça. Parce que c'est le message qu'on doit apporter aux gens. Lorsque je m'en vais annoncer l'Évangile aux gens, je m'en vais leur annoncer qu'il y a un Dieu extraordinaire qui les a créés, qu'il y a un Dieu extraordinaire qui veut les aimer même s'ils sont rebelles, et ce Dieu extraordinaire-là est extraordinairement saint, juste et juge. Et donc, il t'a créé, toi tu as été rebelle, il veut te bénir, tu peux le rejeter une première fois, tu peux le rejeter dans le fait qu'il veut te sauver, mais un jour tu vas paraître devant lui aussi. Et donc Dieu va être fidèle à ce qu'il a annoncé. Et ceux qui décident de rejeter l'Éternel vont devoir paraître en jugement devant lui. D'accord? En tout cela, Dieu est fidèle, il est intègre, il est fidèle avec lui-même. C'est ce qu'on assiste ici. Et c'est important pour nous de le comprendre comme ça, parce qu'autrement, on va mal comprendre la grâce. On va se méprendre sur la grâce. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises, j'avais un ami qui est venu à l'église ici pendant quelques mois, pas saisi l'Évangile, mais beaucoup, beaucoup les enseignements de Jésus, mais incapable de lire l'Ancien Testament. Il dit, c'est un Dieu sanglant, c'est un Dieu qui est dur. Puis je lui disais, c'est parce que tu n'as pas bien écouté Jésus. Jésus est encore plus dur que ça. Dans l'Ancien Testament, c'est tous des châtiments temporaires qui mènent à la mort. Jésus, c'est lui qui parle le plus du châtiment éternel. Mais ça, tu ne l'entends pas. D'accord? Alors, tout ça nous parle d'un Dieu saint qui va juger le mal. John Piper a donné comme réponse, lorsque les gens me demandent, mais où est ton Dieu devant toute la violence qu'il y a dans le monde, les viols, les meurtres, les mensonges, la corruption, l'hypocrisie, John Piper répond, Dieu est en train d'amasser une montagne de colère pour juger tous les péchés des hommes. C'est ça qu'il est en train de faire. Et ça s'en vient. Alors prépare-toi parce que toi aussi tu vas comparaître. La grâce t'est offerte d'entrer dans cette alliance avec l'Éternel. Si je ne saisis pas ça, je ne saisis pas la grâce. J'ai une vision de la grâce qui est une espèce de vous savez, une espèce de parent qui ne veut pas trop se donner pour ses enfants et qui fait juste faire des chèques. C'est bien trop demandant d'aller faire la bataille, d'aider mon enfant à réaliser ses niaiseries, l'aimer lorsqu'il me rejette, puis continuer à persévérer à l'aimer. Puis tu fais des chèques, tu le laisses aller. Ce qui est un manque, en fait, d'amour, mais on va appeler ça de l'amour, d'accord? Je te laisse libre de te détruire, d'accord? C'est pas la vision biblique du monde. Alors, Ésaïe opère dans cette période-là, et donc il va avoir un ministère extrêmement difficile. Encore une fois, on peut s'en inspirer nous-mêmes, parce que notre message est un message super beau. Le message d'Ésaïe, c'est un message super beau, mais qu'on doit annoncer à des cœurs souvent qui veulent pas le recevoir. Et ça fait partie de notre mandat. L'état spirituel du peuple de Dieu, bien c'est ça, j'ai pas mal mentionné, ils sont allés vraiment vers d'autres dieux, ils ont fait des compromis par alliance. Malheureusement, Salomon est celui qui a ouvert la voie à tout ça, d'accord? Lui-même en faisant de nombreuses alliances, et donc se vouant lui-même à toutes sortes de cultes idolâtres. Et comme je le mentionnais, bien c'est ça, le royaume du Sud va tenir debout plus longtemps en raison de sa fidélité avec l'Éternel. Dieu va faire grâce, mais éventuellement, c'était pas tous les rois qui marchaient avec Dieu, puis sous Manassé, Dieu annonce à travers Ésaïe que la rébellion de Juda, du royaume du Sud, la patience de Dieu arrive à son terme et Dieu va aussi sévir contre eux. Une des choses qui est importante de mentionner, je trouve que c'est Alexandre qui a monté ce cours-là, là, mais au haut de la page 4, je crois que c'est important de mentionner cela. Si j'ai lu le début de l'Ancien Testament, puis je vois les promesses extraordinaires qui sont faites à Abraham, de bénédiction à David, à Moïse, des promesses même qui sont faites à Israël. Oui, je peux lire les juges, le livre des juges, puis je vois que c'est Israël qui est rebelle, puis tu sais, je peux comme en venir à me dire, ouais, mais ça va mal, mais si ça va mal, c'est de la faute des hommes, c'est pas de la faute de Dieu. Dieu était là, Dieu était fidèle, il leur envoie des héros pour les sauver des mains ennemies, tout ça. Il reste quand même que lorsque j'arrive dans cette époque-là, ça va mal, tu sais. Puis si Dieu devait faire la différence dans la vie d'un peuple, où est-ce qu'elle est cette différence-là? Parce que finalement, Israël, en quoi est-ce que sa condition est meilleure que celle des nations environnantes qui sont livrées à eux-mêmes, puis Israël est dans ses péchés, puis c'est la débandade totale sur le plan politique, sur le plan de la prospérité, tout ça. Alors, la scène est très, très sombre. À l'intérieur de tout le livre d'Ésaïe, il y a cette promesse constante qui revient. Il y a cette annonce constante qui revient à travers tout le livre d'Ésaïe de jours meilleurs qui s'en viennent, où l'Éternel va venir et de ce peuple rebelle va se prendre un reste. Ce reste-là va être composé non seulement de gens d'Israël qui reviennent à l'Éternel, mais de gens de toutes les nations de la terre qui vont venir à l'Éternel. D'accord? Et ça va, comme je le mentionnais dernièrement dans une prédication sur Ésaïe 56, le livre d'Ésaïe se termine vraiment même sur des promesses d'une terre nouvelle, de cieux nouveaux. D'accord? Alors, l'espoir qui est constamment présent à travers tout le livre pointe jusqu'à la consommation des temps. D'accord? Jusqu'au retour de Christ. Et donc, il y a cet espoir-là qui est là, présent, constant, et Dieu se présente comme le sauveur qui va venir les sauver. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à ce point-ci? On va rentrer plus un peu dans les connaissances, les informations bibliques, théologiques qu'on trouve à l'intérieur du livre, le message lui-même. Pas de questions, pas de commentaires? Oui? Oui? OK, moi je comprends ta question. Dans Ésaïe 1, la manière que Dieu, je vais répéter, dans Ésaïe 1, pardon? Oui, dans Ésaïe 1, Dieu parle d'Israël, puis il dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec vous? Il dit, vous êtes rebelles, je vous ai châtiés, vous n'êtes pas repentis. J'ai augmenté les châtiments, vous n'êtes pas repentis. Il dit, je ne sais même plus où vous donner une fessée. Vous êtes rouge à vif de partout. Il n'y a plus rien à faire. Je ne sais plus comment vous ramener. Tu sais. Et c'est ça au début d'Ésaïe. C'est vraiment, pour un chrétien qui lit ça, c'est vraiment touchant et c'est vraiment troublant parce que tu vois le cœur d'un père qui voit son enfant qui est dans un processus d'autodestruction à cause de sa rébellion puis qui dit, mais je ne sais plus comment te prendre. Tu cours à ta perte puis je ne sais plus comment t'arrêter. D'accord? En gros, en somme, c'est ça. La question d'André, c'est est-ce qu'on peut voir dans ça une description aussi de l'histoire de l'humanité? À travers tous ces maux, toutes ces misères, sa colère, sa haine, l'autodestruction entre les hommes. Ben, ma réponse, c'est oui, mais par application. Par application. Je vais essayer d'expliquer ça très, très brièvement. Le texte parle d'Israël. OK? Le texte parle pas de l'humanité. Alors, si je disais que ce texte-là est en train de parler de l'humanité, ce serait faux. Mais est-ce que je peux faire un parallèle puis dire, est-ce qu'on voit pas là aussi ce qui arrive à l'humanité que Dieu a livré à elle-même? Tu comprends? Et donc, par application, je peux le faire. Dans ce sens-là, et en utilisant les prophètes de cette manière-là, un livre prophétique comme ça, les livres prophétiques sont extraordinairement pratiques pour illustrer ce qui se passe dans le cœur de Dieu lorsque Dieu voit les hommes. Fait que je pourrais m'en servir avec, je pense à quelqu'un dans ma famille qui... Dieu est tellement gracieux, il devrait être mort, ça fait longtemps, mais il ne l'est pas. Il ne l'est pas, puis il rebelle à Dieu, il refuse de croire en lui, il refuse de marcher avec lui, puis il devrait plus exister, cette personne-là, c'est parce qu'il est tellement dur avec sa propre vie. Je pourrais me servir de ce passage-là pour dire, mais tu ne vois pas dans quel processus tu es engagé, c'est parce que Dieu te livre à toi-même. Ça répond-tu à ta question, André? Oui. 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 Oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui, puis non. Non, je ne ferais pas ça. Cette semaine, c'était la semaine de la sensibilisation sur la cause du suicide, c'est vrai. Non, je n'irai pas là parce que le suicide parle de désespoir. Le suicide parle de désespoir dans un cœur qui est livré à lui-même. Ça, c'est vrai. Ésaïe 1 ne parle pas de souffrance. Il parle des châtiments que Dieu inflige sur la vie d'une personne ou sur la vie d'Israël. Fait que si je voulais, admettons, faire un parallèle, j'irais plus dans Romains 1. J'irai plus voir, admettons, Saül qui est livré à lui-même. Mais Romains 1 qui parle de ce qui se passe lorsqu'on refuse de se tourner vers Dieu puis qu'on décide de faire les choses par nous-mêmes, il y a un désespoir qui s'installe dans le cœur humain. Et c'est plus avec ça que je parlerai de suicide. Là, ici, ça parle plus de châtiment que le fait que Dieu les livre à eux-mêmes. Fait que je trouverais ça cruel un petit peu de me servir de ça pour essayer d'aider quelqu'un qui a des pensées suicidaires ou pour parler du suicide. Donc, ça va, on va ensemble dans le message du livre d'Ésaïe. Trois éléments qu'on va souligner. Je vais juste les mentionner tout de suite pour que vous puissiez faire les distinctions. Alors, Dieu est le Saint d'Israël, c'est le point 1. On va développer ça ensemble. Deuxièmement, Dieu est le Sauveur et le Rédempteur d'Israël. Et puis, troisièmement, le Serviteur de l'Éternel qu'on voit apparaître à l'intérieur du livre d'Ésaïe. Alors, c'est les trois éléments du message qu'on va faire ressortir brièvement. Dieu est le Saint d'Israël. Cette notion que Dieu est ce qu'il y a de plus précieux pour Israël, Dieu est absolument saint et parfait. La première ligne, dans l'ensemble du livre d'Ésaïe, l'Éternel est appelé le Saint d'Israël. On le voit au début du livre, mais on le voit à l'intérieur de tout le livre aussi. Dieu avait appelé Israël à être une nation sainte. Malheureusement, ils ont abandonné l'Éternel et ont péché contre Dieu. En méprisant ainsi le Saint d'Israël, ils ont attiré sur eux le malheur et le jugement de Dieu. La sainteté de Dieu est présentée tout au long du livre d'Ésaïe afin de rappeler au peuple la crainte du Dieu saint. Fait que, il y a cette idée à l'intérieur du livre d'Ésaïe que Dieu n'est pas un autre Dieu que tu peux prendre comme à ton service pour s'occuper de toi. Dieu est le Créateur. Dieu est l'infiniment Dieu. Dieu est celui qui est parfait. Dieu est celui qui est incomparable. Et si Dieu, qui est incomparable à qui que ce soit, là, je ne peux pas le comparer avec les dieux que les êtres humains imaginent, puis tout ça, on est en train de dire que Dieu est l'auteur de la vie. Et vous et moi, si on respire actuellement, c'est parce que Dieu désire encore que nous respirions. Et Dieu a juste à souhaiter qu'on arrête de respirer, et tout le monde ici, on fait juste tomber à terre comme des guenilles. Plus que ça, Dieu fait juste souhaiter que toutes nos molécules se détachent, puis qu'on n'existe plus. Ça se produit. Plus que ça, Dieu fait juste souhaiter que toutes nos molécules disparaissent, qu'elles n'existent plus elles-mêmes. Puis on n'existe plus, notre histoire n'existe plus. Il y a une année qui n'a jamais existé, personne ne sera là pour s'en souvenir. Il n'y aurait que Dieu pour le faire. Ça, c'est Dieu. D'accord? Et Dieu fait l'honneur à Israël de dire, « Je te prends pour épouse. Je vais entrer dans une relation personnelle avec toi. Tu vas être ma gloire sur la terre, comme il dit dans Jérémie, et je vais être ta gloire. Parce que tu es marié à l'Éternel, à celui qui soutient l'univers dans son existence. Entre toi et moi, parce que l'être humain a péché, il n'y a plus grand-chose de commun. Il n'y a plus grand-chose de commun parce que t'es faux, t'es menteur, t'es porté au mal. C'est moi qui t'ai créé, t'as été créé à mon image, mais tout ça a été profondément dépravé, brisé. Ce vase-là a été brisé, fracturé par le péché, et je te fais l'honneur de devenir ton époux. Et je vais te prendre. Et ça ne sera pas une relation où je vais être comme un... Tu sais, je suis allé prendre une petite fille qui traînait dans la rue, qui n'avait pas d'avenir, puis tu sais, moi je suis quelqu'un qui est milliardaire, puis quelqu'un de bien. Tout. Non, non, non. Ça va être une relation amoureuse, extraordinaire, qu'on va vivre ensemble. Ça, c'est le Saint d'Israël, d'accord? Et donc, le livre d'Ésaïe revient à plusieurs reprises en présentant Dieu comme étant cet être-là extraordinaire. Un des grands défauts de notre époque, c'est que Dieu, c'est notre chum, d'accord? Et dans notre esprit, parce que le Fils de Dieu s'est fait homme, il est devenu Jésus, il a marché comme un homme, nous perdons de vue le fait que Jésus-Christ est le Saint d'Israël. Et nous avons l'immense honneur d'avoir pour époux, pour frère, toutes sortes d'images qu'on a dans le Nouveau Testament, le Saint d'Israël, le Créateur de l'univers. C'est pour ça que Jean commence avec la parole. Au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il veut nous rappeler c'est qui ce Jésus-là? C'est le principe créateur de l'univers et c'est lui qui devient ton frère, d'accord? Alors, cette notion-là revient à plusieurs reprises dans le livre d'Ésaïe. Et le but de Dieu, c'est de dire, tu comprends pas. Tu t'es tourné vers des bouts de bois. Alors que tu avais le privilège d'être l'épouse de celui qui a créé toute chose. Tu comprends pas. Premièrement, tu ne peux pas briser cette relation-là comme ça. Et tu ne comprends pas de qui tu t'es éloigné. Lorsque l'Éternel a traité alliance avec Israël, l'Éternel a traité alliance et l'a invité à entrer dans cette relation-là. Et Israël devenait l'épouse de Dieu, devait représenter Dieu, devait être digne de cette nouvelle relation-là, de cet époux-là extraordinaire. Et Israël devait être, devant les nations environnantes, la gloire de l'Éternel. De la même manière qu'un mari va se promener avec son épouse le jour des noces, puis... Comprenez? Oh, son épouse est enceinte. Puis, ça va dire à tout le monde, l'épouse est enceinte. Tu sens qu'il est comme, oh! Mais c'est ça, Israël devait être comme ça. Il y a vraiment des beaux passages qui nous disent qu'on est appelé, on voyait ça dans le coaching l'autre fois, on est appelé à être, nous aussi, la gloire de l'Éternel. Malheureusement, Israël s'est détourné. Regardez ensemble avec moi Ésaïe 6 au milieu de la page et Ésaïe 6, 5. On a des beaux passages qui parlent de la splendeur de l'Éternel. Et comment est-ce que Ésaïe se sent lorsque lui, parce qu'Ésaïe a eu le privilège de voir la gloire de Dieu. D'accord? Ésaïe 6, 5. C'est Ésaïe qui parle et dit, alors je dis malheur à moi. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Au moment où Ésaïe a cette révélation-là et qu'il voit l'Éternel, le roi des armées, il est convaincu qu'il est mort. D'accord? Le chapitre 6 d'Ésaïe est un chapitre extraordinaire. Vous voulez prendre un temps d'adoration cet après-midi et aller lire Ésaïe 6.1 puis lisez les versets suivants. C'est vraiment un chapitre extraordinaire pour adorer Dieu et voir Dieu dans toute sa majesté. Donc, le livre d'Ésaïe nous présente constamment Dieu comme ce saint d'Israël, S-A-I-N-T. Et Israël qui a été rebelle à son Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait avec lui? Et on a la suite dans Ésaïe 6, les versets 6 et 7. « Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Alors, il est allé sur l'autel qui était devant l'Éternel, qui représente cet endroit où on se réconcilie avec Dieu. Et puis, il a pris une pierre de l'autel et il est venu le purifier. D'accord? Et donc, on voit déjà cette notion-là de grâce, cette relation qui est une relation qui est fondée sur la grâce du Saint d'Israël qui veut accueillir son peuple, qui veut lui pardonner. Elle apparaît déjà ici. Il lui fait grâce. Si le péché d'Ésaïe a été pardonné, ce n'est pas par ses propres œuvres, mais parce que Dieu lui a fait grâce. Et on voit apparaître tranquillement le thème du Dieu sauveur, rédempteur, qu'on trouve à travers tout le livre d'Ésaïe. Ensuite, Dieu appelle Ésaïe à aller proclamer le jugement de Dieu sur la nation qui a méprisé sa sainteté. Nous voyons donc que l'Éternel emploie des personnes imparfaites à qui il a fait grâce, des personnes comme vous et moi. Cela démontre que c'est par la grâce que nous pouvons servir Dieu. Et donc, on voit ces idées-là apparaître. Maintenant, juste une petite perle que je vais vous donner. Tournez dans Ésaïe 6, là, parce qu'il aurait fallu que je vous lise les premiers versets. Ésaïe 6, à partir du verset 1. Ésaïe 6, 1, l'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur son trône, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont elles se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Puis c'est là qu'il s'écrit puis il dit « Malheur à moi ». Tournez avec moi dans Jean. On va aller dans le Nouveau Testament, d'accord? Je vais juste vous donner une piste, mais qui est importante après pour comprendre la personne de Christ, la personne de Jésus. Jean 12. Vous pouvez tourner parce qu'on ne l'a pas de cité dans le, pardon, dans les notes. Alors Jésus est en train d'enseigner, si vous allez à Jean 12, 35, Jésus leur dit « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait faits, OK, c'est le narrateur, là, on n'est plus dans le. C'est plus Jésus qui est en train de parler, c'est Jean qui est en train de parler. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Ésaïe a vu la gloire de Christ, d'accord? Lorsqu'il voit, lorsqu'il est là et qu'il voit l'Éternel qui apparaît sur le trône, il voit la gloire de Christ à ce moment-là. Et donc, on voit déjà dans l'Ancien Testament apparaître ce personnage-là, parce que jamais dans les Écritures, Dieu le Père va apparaître aux hommes. Mais lorsque Ésaïe est là, il voit l'Éternel. Qu'est-ce qu'il voit à ce moment-là? Jean nous dit qu'il a vu la gloire de Christ à ce moment-là, d'accord? Dans l'Ancien Testament. Et donc, c'est un des endroits où on le voit apparaître. Ça aide à comprendre après lorsque tu vas à d'autres endroits dans l'Ancien Testament, puis tu vois comme Dieu qui est visible, qu'est-ce qui se passe là? On appelle ça des théophanies. Ce sont des moments où Dieu apparaît de manière visible. Et dans plusieurs des cas, les indices sont assez évidents que tu as la personne de Christ qui est présente à ce moment-là. Ce n'est pas nécessairement Jésus de Nazareth, parce que le Christ n'est pas encore devenu un homme, d'accord? Mais le Christ est là, le Fils de Dieu est présent à ce moment-là. Alors, je vous lis juste le paragraphe au haut de la page 5. Le Fils de Dieu devant lequel les anges criaient « Saint, Saint, Saint », c'est lui qui est venu pour sauver le monde de ses péchés. C'est lui le Saint de Dieu qui est devenu péché pour nous et qui les a portés par sa mort sur la croix. Et on va le voir apparaître dans le rôle du serviteur souffrant dans Ésaïe 53, tout ça. Donc, un premier élément très fort dans le livre d'Ésaïe, c'est que l'Éternel est le Saint d'Israël. C'est le bien le plus précieux d'Israël. Et il est saint et Israël devrait marcher dans la sainteté puisqu'il s'est marié avec ce Dieu-là extraordinaire. Deuxième thème, Dieu est le sauveur et le rédempteur d'Israël. Alors, à plusieurs reprises, on est en train de placer le terrain pour une bonne compréhension de la grâce. À plusieurs reprises dans le livre d'Ésaïe, on voit cette idée que Dieu dit, « Je vous ai créé comme peuple, vous avez été rebelles, je vous ai jugé, je vais vous sauver. » D'accord? Alors, à plusieurs reprises dans le livre d'Ésaïe, c'est Dieu qui est le sauveur d'Israël. C'est lui qui prend l'initiative du rachat. C'est lui qui prend l'initiative du salut. Le fait que Dieu est le Saint d'Israël entraîne qu'il n'abandonnera pas son peuple et qu'il sera fidèle à ses promesses. Ce que je demandais tout à l'heure à David, c'est vraiment cette idée que Dieu va être fidèle à son alliance jusqu'au rachat aussi d'Israël. Lorsque vous allez être éloigné, si mon peuple s'humilie, prie, en cherchant ma face, je l'exaucerai des cieux. Je vais les ramener à la maison. D'accord? Le nom d'Ésaïe veut dire « L'Éternel est salut ». Ce thème est très présent dans le livre d'Ésaïe. L'Éternel est celui qui délivre son peuple des nations environnantes. Dès la fin du chapitre 6, nous voyons que Dieu restera fidèle à ses promesses et qu'il sauvera un reste d'Israël. Alors, je vous lis quelques versets, Ésaïe 6, 13. « Et s'il y reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. » Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. La sainte postérité est celle qui avait été promise à Abraham. Mais pour cela, Israël a besoin d'un sauveur. Qui sera donc ce sauveur? Qui va venir sauver Israël? Puisque là, ils sont perdus, ils sont en déportation. D'accord? C'est l'Éternel qui va être le sauveur. Ésaïe 41, 14. « Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. » C'est un thème qui est omniprésent dans les Écritures. C'est la notion la plus importante à communiquer aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Dieu est le sauveur. Il est non seulement le Créateur, mais il est le sauveur. Dieu a sauvé Israël de l'esclavage en Égypte. Dieu a sauvé Israël de son péché où il vivait dans cette vie-là. Dieu a sauvé Israël à de nombreuses reprises lorsqu'ils étaient dans leur territoire. Et lorsqu'ils sont en déportation, Dieu va encore les sauver. Et ultimement, Dieu va sauver Israël de son cœur de pécheur en envoyant un sauveur qui va permettre, à travers son sacrifice, de lui donner un cœur nouveau. Dieu va sauver les nations à travers ce sauveur-là, son sacrifice. Tous ceux qui vont se tourner vers l'Éternel, qui vont se joindre à ce reste-là qui va devenir la descendance d'Abraham. D'accord? Donc, le Dieu sauveur, c'est vraiment le thème principal à communiquer aux gens lorsqu'on veut leur parler, de Dieu. Et c'est très difficile à communiquer comme message parce que les gens ne veulent pas être sauvés. Les gens veulent se sauver eux-mêmes. D'accord? C'est le propre de l'homme, c'est l'orgueil humain. On veut s'en sortir par nous-mêmes. On veut démontrer qu'on est capable par nous-mêmes. Et donc, c'est difficile pour l'être humain de s'humilier, d'avoir un cœur brisé. Heureux ceux qui pleurent, heureux les pauvres en esprit. D'accord? Si mon peuple s'humilie, prie en cherchant ma face. Il faut être brisé pour pouvoir reconnaître qu'on a besoin d'être sauvé de nous-mêmes. Ésaïe 43, 3, au milieu de la page, « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. » Il vient un temps, là, juste un commentaire par rapport à la géopolitique de l'époque, il vient un temps où Dieu juge maintenant les nations dont il s'est servi pour juger Israël, puis il dit, « Ok, t'es rendu au terme de ta méchanceté, maintenant c'est toi qui vas tomber. » D'accord? Et donc Dieu dit, « Je vais châtier d'autres hommes pour pouvoir te relever. » D'accord? Mais Dieu est fidèle aussi dans son jugement envers eux. Ils sont rebelles à Dieu. D'accord? Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone et je fais descendre tous les fuyards, même les Chaldéens, sur les navires dont ils tiraient gloire. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Dans ce contexte-là, Dieu est en train de dire, la géopolitique internationale est affectée par mes décisions. C'est ça qu'il est en train de dire. D'accord? Et donc, ce qui se passe avec telle ou telle nation pour permettre à Israël de retourner, d'être réchappé, c'est moi qui est en train de travailler derrière ça. Ésaïe 47,4, notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées, le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël, Dieu lui-même, celui qui juge Israël et celui qui lui fera aussi grâce en venant sauver son peuple des nations ennemies. Alors, le but ultime du Sauveur est de délivrer son peuple de ses ennemis. Je vais aller avec le dernier thème parce que je vais manquer de temps. Il n'est pas tout à fait assez bien développé dans le cours. Quand je vous le dis, il y aurait beaucoup plus à lire dans le livre d'Ésaïe sur le serviteur régnant, le serviteur souffrant. On escamote un petit peu ici, j'en suis désolé, là, mais dans une prochaine édition, peut-être qu'on pourra le développer un petit peu mieux. Un des thèmes qui apparaît très clairement, c'est cette notion-là du serviteur de l'Éternel dans le livre d'Ésaïe. Le serviteur de l'Éternel, tout d'abord, c'est Israël. D'accord? Dieu emploie toujours plusieurs images pour parler de notre relation avec lui ou la relation du peuple d'Israël avec lui. C'est son peuple, c'est sa gloire, mais c'est aussi son serviteur. D'accord? Et donc, on voit cette idée-là dès le début du serviteur qui a été rebelle et que Dieu veut relever pour qu'il le ramène à lui et qu'il va servir à sa gloire parce qu'il va être fidèle à l'Éternel, il va manifester la gloire de Dieu dans cette union-là. D'accord? Mais progressivement, à travers le livre, on voit apparaître non plus le peuple comme étant le serviteur de l'Éternel, mais il y a un personnage qui se détache, d'accord? Qui incarne le serviteur parfait, parce qu'Israël est un serviteur imparfait. Israël est un serviteur rebelle. Mais tranquillement, on voit apparaître à travers le livre un serviteur, un personnage qui va venir et qui, en fin de compte, lui va être le serviteur fidèle et c'est à travers lui que Dieu va restaurer son peuple. Ce serviteur-là, évidemment, pour nous qui avons maintenant tout le Nouveau Testament, qui vivons après la venue de Christ, on comprend que c'est Jésus-Christ. C'est très clair, c'est très évident. Mais à l'époque, c'est pas très, très clair. Il y a plutôt des passages très énigmatiques, comme Ésaïe 53, par exemple. Donc, au haut de la page 6, finalement, un autre thème qui revient continuellement dans le livre d'Ésaïe, c'est cette notion-là de serviteur de l'Éternel. Deuxième paragraphe, ici nous avons probablement la prophétie dans Ésaïe 52-53, la plus évidente du livre d'Ésaïe concernant Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il y en a d'autres qui sont là, c'est celle qui est la plus complète, celle qui est la plus énigmatique. Si tu n'as pas Jésus comme personnage dans l'histoire, ben tu te dis, on attend encore Ésaïe 53, ça ne s'est jamais accompli cette prophétie-là. D'accord? Ça veut dire mystérieuse, difficile à lire, à comprendre. Pardon. Je vais vous lire le petit paragraphe ici. C'est lui le serviteur souffrant de l'Éternel, venu pour pardonner les péchés et faire de son peuple un peuple saint. Par lui, beaucoup d'hommes seront justifiés. Ce passage d'Ésaïe 53 est aussi l'un des plus cités dans le Nouveau Testament et nous montre que les prophéties qu'Ésaïe a annoncées trouvent leur accomplissement 700 ans plus tard avec la venue du Messie, la venue du serviteur souffrant. Je vous épargne le passage d'Ésaïe 53, je vous laisse ça Ésaïe 55. Ésaïe 55, les versets 3 à 5. Parce que l'autre thème qui apparaît, qui vient avec ça, c'est l'idée du salut pour les nations à travers le livre d'Ésaïe, que des gens de toute nation de la terre vont répondre à l'appel du Messie, de ce sauveur-là, de ce serviteur souffrant. Ésaïe 55, « Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je traiterai une alliance éternelle. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissaient pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. » Alors, un des thèmes sous-jacents à cette notion-là du serviteur souffrant qui vient sauver Israël, c'est qu'il va attirer à lui non seulement le reste d'Israël qui va revenir, mais il va attirer des gens de toutes les nations de la terre. On était là-dedans dans Ésaïe 56 il y a 2 semaines, je crois. Quelques applications pour nous tirer du livre d'Ésaïe. Moi, je vous encourage, j'espère que je vous ai donné le goût de lire le livre, d'accord? En le lisant, vous allez dire, OK, c'était clair dans le cours, mais là, je ne comprends pas. Il y a des gros bouts de prophétie où c'est difficile des fois à suivre, j'en conviens. Faites juste persévérer. Et même si vous n'arrivez pas à reconstruire historiquement le chapitre, s'adresse à quelle période, qui, tout ça, il y a des grands moments où vous allez voir le cœur de Dieu, vous allez voir l'amour de Dieu, vous allez entendre l'amour de Dieu, vous allez voir le Sauveur apparaître, vous allez voir son sacrifice. C'est extrêmement édifiant comme livre, d'accord? C'est un livre qui nous porte vers l'adoration et qui nous donne, nous, un zèle pour servir l'Éternel. Des applications qu'on peut tirer du livre, ben on était dans Ésaïe 56 il y a 2 semaines, comme je disais. Il y a toute cette idée que nous vivons maintenant à l'époque où les prophéties d'Ésaïe 53, 56, tout ça sont accomplies et en train de s'accomplir. Et donc déjà, nous on est la preuve, d'accord? Des gens de toutes les nations de la terre sont en train de venir à l'Éternel. C'était pas notre Dieu, on n'était pas du peuple de Dieu, mais nous sommes en train de nous tourner vers l'Éternel pour venir à lui. Nous sommes attirés à lui par l'œuvre de Jésus-Christ. Et donc notre rôle à nous maintenant, si je reviens sur ma première idée du cours, parfois nous sommes appelés à être des prophètes à notre tour. Notre rôle à nous maintenant, c'est d'être ces prophètes au milieu des nations qui invitent les nations à venir à l'Éternel, à venir se réconcilier avec Dieu, à venir se réfugier en Dieu, sous la grâce de Dieu. Et donc, on a vraiment ce rôle-là à jouer, tant dans la prière que dans l'annonce de ce message-là. Un des thèmes qui revient constamment à travers Ésaïe, évidemment, c'est la grâce, et on devrait jouir de cette grâce-là, réaliser que c'est Dieu qui nous sauve, c'est lui qui nous rachète. La semaine prochaine, on va être dans le livre de Jérémie. Au bas en haut de la page 7, vous avez quelques chapitres à lire, d'accord? J'ai pris le temps moi-même juste d'aller relire les chapitres d'Ésaïe cette semaine, précisément ceux-là, et c'est vraiment utile de le faire comme ça. Alors, si vous ne pouvez pas lire Jérémie au complet cette semaine, peut-être que c'est trop pour vous, je vous encourage fortement à lire ces chapitres-là pour vous préparer à recevoir davantage de la leçon la semaine prochaine. On va terminer avec un mot de prière. Éternel, notre Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. J'aime tellement ce livre-là. C'est un des livres qui m'a le plus touché personnellement dans les dernières années. Tu as ravivé ma foi, Seigneur. Tu m'as parlé de ton amour, de ta grâce. Tu m'as donné du courage, Seigneur. Du courage pour avancer dans le combat. Tu m'as donné du courage pour me reposer en toi, sur toi, Seigneur. Et Seigneur Jésus, plus que tout autre livre de l'Ancien Testament, nous voyons ta gloire apparaître dans ce livre. Nous voyons la beauté de ton amour, de ton sacrifice pour nous, Seigneur. Je veux t'adorer ce matin. Je veux reconnaître le Dieu sauveur merveilleux que tu es et l'amour incroyable que tu as manifesté en t'offrant comme ça en sacrifice. Sois béni, Seigneur, que ce livre devienne précieux dans nos vies, dans nos cœurs, dans les années à venir, et que nous puissions être animés de ce zèle, Seigneur, qu'avait Ésaïe pour parler de ce Dieu merveilleux que tu es. C'est en Jésus-Christ que je te prie. Amen.